Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Québec a dévoilé un peu plus tôt cet après-midi l'équipe de la nouvelle agence Santé Québec. En tout cas, les deux plus gros Top Gun. Il s'agit de Geneviève Biron, qui devient la présidente et chef de la direction de Santé Québec, et Frédéric Abergel, qui est nommé vice-président exécutif aux opérations et à la transformation. Madame Biron vient d'une compagnie qui s'appelle les Laboratoires Santé Biron, donc du privé. Frédéric Abergel, lui, est actuellement PDG du plus gros hôpital au Québec, le CHUM. Michel Clair est l'ancien président de la Commission d'études sur les services de santé et les services sociaux, un rapport qui a été publié en 2001. C'est un ancien ministre péquiste. Et ce rapport est largement cité depuis deux décennies comme un modèle qu'on devrait appliquer à notre système de santé. Christian Dubé a souvent cité le rapport de M. Clair. Il est au bout du fil. Michel Clair, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Qu'est-ce que vous pensez des deux individus qui ont été nommés à la tête de Santé Québec, les deux Top Gun?
Bien, écoutez, dans un premier temps, j'ai beaucoup de difficultés à visualiser tant Mme Biron que M. Abergel comme étant des Top Gun, mais je n'ai aucune difficulté à les visualiser comme étant deux très grands gestionnaires d'expérience, des personnes qui ont fait leur marque dans le domaine de la santé et qui ont des expériences très complémentaires. Alors, j'ai eu l'occasion professionnellement à l'époque où j'étais moi-même actif là, dans le réseau de la santé de bien connaître les deux personnes. Honnêtement, moi, je pense que ce sont deux choix d'excellente qualité. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes là, qui, comme M. Abergel et Mme Biron, acceptent de s'engager là à relever le défi de Santé Québec. Alors, oui. Pour moi, c'est sans conteste deux personnes de grande qualité,
Monsieur,
des grands gestionnaires.
Monsieur Clair, le ministre Dubé a souvent parlé de votre rapport là, publié en 2001 de la Commission d'études sur les services de santé et services sociaux. Dans ce rapport-là, est-ce que vous recommandiez quelque chose qui ressemblait à l'agence qui a été créée?
On avait proposé à l'époque que le gouvernement examine deux grandes voies de modernisation de la gouvernance supérieure du domaine de la santé, soit vraiment de faire une réforme intérieure au ministère de la Santé en vue d'éloigner la planification du contrôle des opérations ou de créer une agence Santé Québec, c'est-à-dire de vraiment là, créer une organisation qui pourrait développer une nouvelle culture organisationnelle plus distante de la politique et remettre les choses en place. Des élus, un ministère, sa première responsabilité, ça doit être de communiquer des orientations stratégiques, des grandes orientations, puis d'évaluer les résultats de ceux qui livrent les services. Là, on a confondu les rôles pendant et de plus en plus pendant 25 ans, à savoir d'avoir une organisation de plus en plus centralisée sous l'autorité d'un ministère qui fait les politiques, qui donne les orientations, qui donne les budgets, qui contrôle les établissements. Alors, ça, là, c'est une spirale d'ultra-centralisation qui fait que ni l'une ni l'autre des deux grandes fonctions sont bien assumées. La planification, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de publication d'une politique santé et bien-être complète. Et du côté des opérations, ben ça fait longtemps qu'on n'a pas une culture organisationnelle qui est axée sur les résultats. Donc, moi, je pense que le tandem en question, là, c'est vraiment le grand défi qu'ils vont avoir, c'est-à-dire de développer, de déployer avec l'aide des parties prenantes une nouvelle tonalité dans les relations entre toutes les parties prenantes, une nouvelle culture basée davantage sur la concertation, sur les résultats plutôt que sur, comment je vous dirais, donc, simplement des rapports de force entre les différentes parties prenantes.
Justement, parlons des pièges à ours qui sont devant l'Agence Santé Québec, devant ces deux top guns, comme les a décrits M. Dubé. Les pièges sont où? Parce qu'il y en a plusieurs. Ça dépend pas, disons que le succès de l'agence et du système ne dépendra pas uniquement de la bonne volonté de ces deux gestionnaires-là. Là.
Non, tout à fait. Écoutez, pour moi, là, ça fait longtemps que toutes les parties prenantes, qu'on parle des syndicats, des associations professionnelles, des ordres professionnels, du secteur privé, ça fait longtemps que tout le monde réclame une nouvelle culture organisationnelle basée, comment je dirais, davantage sur l'atteinte de résultats satisfaisants pour la population. Mais là, moi, je pense que toutes les parties prenantes, là, aujourd'hui, ont, ou dans les prochains jours, vont avoir une décision importante à prendre. Soit de dire, est-ce que nous prenons la décision de faire confiance à une nouvelle équipe qui va vouloir insuffler un nouveau souffle, avoir une approche d'innovation, mais sur laquelle on ne peut pas avancer, si on veut, sans qu'on ait, j'allais dire, un peu une approche contractuelle entre nous. Une sorte de contrat, oui, social, mais un contrat de responsabilité que, si on veut avoir du succès, là, il faut qu'on ait confiance dans les uns des autres, dans la partie là, qui dirige, mais aussi dans la partie qui exécute. Et ça, ça demande une réflexion là, en profondeur de chacune des parties prenantes. Parce que si on fait toujours la même chose, puis qu'on aborde la Santé Québec en disant « Ah, ça ne marchera pas, c'est négatif, puis on va en profiter pour essayer, là, vu qu'ils ne seront pas trop solides au début », de marquer des points pour avoir, nous autres, un plus gros part du gâteau, là, ou avoir atteindre des objectifs qu'on veut, ça ne pourra pas donner des fruits aussi positifs que si on a une attitude d'ouverture et de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que l'accès soit amélioré, ce qui est la priorité numéro un.
Mais, M. Clair, ça me fait un peu peur ce que vous me dites parce que si je décode bien ce que vous venez de me raconter, le succès de ces deux gestionnaires-là, de l'agence, va dépendre de la bonne volonté d'entités qui leur sont extérieures, comme les syndicats, comme le collège, comme les syndicats de médecins, par exemple.
Non, mais ce que je dis, c'est pas... Ben, je pense que Santé Québec va avoir à adopter un plan stratégique, des priorités. On peut pas... Santé Québec ne pourra pas tout faire en même temps. Et il va y avoir une clarté puis une volonté d'innover, je pense, qui va venir de la part des dirigeants et du conseil d'administration de Santé Québec, puis d'insuffler une nouvelle culture, puis de nouveaux rapports avec les parties prenantes. Ce que je dis, c'est qu'un facteur très important, l'occasion à saisir, si on veut, comme population, là, moi, c'est pas tant le succès de Santé Québec que je veux. C'est le succès, comme le disait Mme Biron, là, de l'accès amélioré aux services de santé. Mais ça, si on veut faire ça, je pense que toutes les parties prenantes ont à se regarder dans le miroir, comme on dit, pour voir quelle ouverture ils vont faire à des approches innovantes dans le but d'améliorer l'accès. Ça, c'est certain que si... Vous savez, si on adopte des attitudes de rigidité, de refus de modifier des pratiques, bien, on encourage l'autoritarisme qui a trop longtemps prévalu dans le domaine de la santé au Québec. Alors, si on fait face à trop de rigidité, bien, puis qu'on doit opérer 24 heures sur 24 un réseau de la santé, c'est sûr qu'on nourrit un système ultra-centralisé puis autoritaire. Si on veut avoir des approches basées davantage sur la collaboration, ça demande une ouverture à tous les niveaux. Patronaux, syndicaux, professionnels, dans tous les domaines.
En terminant, M. Clair, et je le souligne, là, vous avez pas, vous n'êtes pas dans ce combat-là, là, vous n'êtes plus en politique, vous avez un regard complètement extérieur. Je veux vous entendre en terminant sur un point qui a beaucoup fait jaser. C'est le salaire de la PDG de Santé Québec. Là, avant même qu'on annonce la nomination de Mme Biron, ça a été annoncé dans la Gazette officielle du Québec. 567 000 $ par année, avec des primes, ça pourrait monter à 652. Qu'est-ce que vous pensez de ce salaire-là?
Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je vais être franc avec vous, ça ne me gêne pas du tout. Dans un monde où aujourd'hui, là, des joueurs de hockey, les sportifs gagnent énormément d'argent, je ne les blâme pas, c'est une réalité autre, mais des personnes qui décident là à la fin, parce que leur carrière est bien avancée tous les deux, là, Mme Biron et M. Abergel, ils attendent pas après ça pour vivre, comme on disait chez nous, hein. Alors moi, je pense que de les rémunérer adéquatement dans un monde de compétition où est-ce qu'on veut intéresser des personnes, encore une fois, moi, là, l'appellation Top Gun, personnellement, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, puis c'est comme ça que je vois ces deux personnes-là, deux grands gestionnaires avec beaucoup d'expérience qui acceptent de se mettre au service de la population québécoise. Ils vont travailler très fort. C'est une énorme responsabilité qu'ils soient rémunérés adéquatement par rapport à des normes nationales et internationales pour des organisations de ce taille-là, ça ne me gêne pas du tout.
Monsieur Clair,
le contraire me gênerait. Le contraire me gênerait et je me méfierais parce que si on demandait à des gens d'assumer des responsabilités de cette nature-là en les sous-payant, ben là, je pourrais avoir des doutes de c'est quoi qui intéresse vraiment ces gens-là, de pourquoi ils vont là. Peut-être pour moi, c'est tout à fait légitime.
Peut-être qu'on aurait d'autres types de candidatures. Merci d'avoir été avec nous. Toujours exact. Un plaisir.
Au plaisir. Merci, M. Lagacé.
Michel Clair, qui est ancien président de la Commission d'études sur les services de santé et des services sociaux. C'est un vieux rapport qui date de 2001, mais qui est extrêmement cité depuis 2001, notamment par Christian Dubé, comme un exemple de ce qu'il faut implanter dans le système de santé.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Voici Catherine Beauchamp.
T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté, t'es belle pour longtemps.
T'es belle de Jean-Pierre Ferland, qui est décédé en fin de semaine. Catherine, le bruit courait. Il y a une dizaine de jours environ, là, les bruits étaient plus forts, puis à l'émission, on s'était préparé discrètement au cas où. Et la nouvelle est tombée en fin de semaine. Jean-Pierre Ferland décédé à près de 90 ans. Il y en a eu 90 ans.
Le 24 juin.
Oui, c'est un petit Saint-Jean-Baptiste.
Exactement.
Oui. Et c'est une belle vie qu'il a menée.
Il a mené une belle vie et je dois dire que son couronnement de fin de vie est assez incroyable parce que, ben, premièrement, les hommages. Il y en a eu des tonnes pendant le week-end. J'ai à peu près tout lu ce qui a été dit, écrit sur lui. Mais ce qui arrive, ce que je trouve de très beau avec le départ de Jean-Pierre Ferland, c'est que ses albums sont numéro un.
Oui.
Et ça, c'est fantastique. L'album Jaune.
Ça a suscité de l'écoute.
Oui, exactement. L'album Jaune, qui est probablement son album le plus mythique, se retrouve à la deuxième place. Des chansons les plus écoutées, les plus achetées sur Apple Music. Et l'album Jaune, ben on le sait, c'est... En tout cas, moi, une de mes pièces préférées là-dessus, c'est God is an American.
Vous pensez que c'est facile de choisir avec vos grands gueules? Vous pensez que c'est facile d'être un Dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Il y a des fois, je mettrai le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome. Ou je ferai le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. Et s'il faut que je vous le dise dans votre vocabulaire... Vous me faites.
Et puis. Et ça, c'est un des nombreux hits, Kat, faut le dire, de l'album Jaune qui a cassé un certain moule au Québec à l'époque.
Oui, parce que Jean-Pierre Ferland avait vu Lost It Show et avait eu comme une espèce de décharge électrique, une décharge électrique en disant hey, la musique que je fais, elle ne fonctionne plus avec l'époque.
La vieille tradition, tu sais, à la Yves Montand, le chansonnier français.
Les grands chanteurs, c'est ça.
Exactement.
Puis, il est parti en Europe et finalement, il a fait la rencontre de Michel Robidoux avec qui il a créé l'album jaune, André Perry qui l'a réalisé aussi. Mais tu sais, juste pour dire, c'est quand même ironique parce que l'album se place devant The Torture Poets Department de Taylor Swift. Et l'album qui est numéro un présentement, c'est Pop Royal des Cowboys Fringants. Donc c'est quand même intéressant de savoir que c'est de la musique francophone qui est au sommet du palmarès d'Apple Music. Il y a aussi d'autres albums qui se retrouvent au sommet. Il y a son premier coffret. Il y avait à peu près une trentaine de chansons. Ça se retrouve à la quatrième place. Et son album de 1995 qui occupe la cinquième position, l'album Écoute pas ça.
Une chance que je t'ai. Je t'ai. Tu m'as une chance comme ça.
Quelqu'un disait, Cap, qu'il a trouvé le moyen d'être pertinent dans chacune des décennies où il a été sur la scène musicale. Puis c'est vrai, ça, c'est une des preuves.
Et puis on pensait, je me souviens de l'époque, on pensait que Jean-Pierre Ferland ne ferait plus rien de bon. Mm-hmm. Et est arrivé enregistré dans sa cabane à sucre. Chanson jalouse aussi se retrouve à la sixième position. Moi, je l'ai rencontré une seule fois, Jean-Pierre Ferland. Je l'ai vu en spectacle aussi. Avant, j'étais vraiment fan. Quand je l'ai rencontré, c'est drôle de faire ce genre de rencontre-là. Quelqu'un qui est en fin de carrière, mais tu n'as pas connu son époque. Tu connais ses chansons, oui. Tu connais l'héritage musical qu'il laisse, mais tu connais... Les Cowboys Fringants, je peux dire j'ai connu l'époque. Mais Jean-Pierre Ferland, moi, je veux dire, justement, l'époque de Lost Show, je n'étais
pas
née. Exactement. Donc, je m'assois devant ce monsieur qui est d'une gentillesse inouïe. C'était en 2018. Il commençait à être très, très fatigué parce que... Pendant l'entretien qui a duré à peu près une quinzaine de minutes, il arrêtait, il prenait des pauses, des fois en plein milieu d'une phrase, puis là, j'attendais devant lui. Ça pouvait durer 30, 40 secondes. Puis à un moment donné, il me dit, je m'excuse, je me suis levée à 5 heures du matin. J'ai de la misère à faire des phrases en continu. Mais j'ai vécu un super moment avec lui. Ça avait cliqué. Même, il m'avait remercié à la fin. Il m'avait dit merci de m'avoir mis autant à l'aise. Et on avait parlé de cette fameuse retraite, parce que tu te souviens, il avait pris sa retraite et il l'avait annoncé en grande pompe, finalement...
Oui. Un peu comme Aznavour.
Il est revenu comme je ne sais pas combien de fois après. Voici ce qu'il m'avait répondu.
J'ai essayé de prendre ma retraite. Je trouve... Mais regardez bien. Puis je me suis posé des questions. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais fait un AVC. L'éveillé venait de mourir. J'ai dit, peut-être que notre génération est terminée. On prend notre retraite. Je n'ai pas été capable. Vraiment. Parce que... Puis je me suis posé des questions. Pourquoi tu voulais arrêter? J'ai fait ce métier-là pour être aimé. Et là, de dire aux gens, « Oh, vous m'avez aimé, là, aimez-moi plus, là, m'en vaut. » Je suis pas capable de faire ça. Je trouvais ça ridicule de faire ça. Et puis en plus de ça, j'aime vraiment chanter. J'aime faire des spectacles, j'aime éblouir. J'aime le public, j'aime la musique.
Et on s'était parlé aussi de sa fin de carrière parce que, évidemment, les proches, il l'a mentionné, Claude Léveillé, bon, bien avant, là, avait quitté, mais tu sais, ça faisait beaucoup de gens autour de lui qui commençaient à mourir. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait frappé sur lui, que je ne savais pas sur son tempérament dans ce milieu de musique.
Moi, je suis un peu heureux. Et puis, un peu heureux, puis un exigeant de moi-même. Alors, quand j'ai fini une chanson, avant de l'enregistrer, là, je la tripote de A à Z d'un côté de l'autre. Je cherche, j'écoute toujours le travail que je fais, puis je suis jamais tout à fait content. Il y a toujours quelque chose qui me fatigue. Tandis que là, je n'ai plus de but sauf d'amuser les gens et de laisser, en partant, un souvenir fantaisiste de moi. Tout ce que j'ai pas pu faire, tout ce que j'ai pas osé faire, comme musique et comme parole et comme musique, je vais le faire.
Là. Vous avez plus peur?
Non, j'ai plus peur. Non, parce qu'on risque rien. On risque. C'est en ne faisant rien qu'on risque d'être oublié. Mais moi, je veux pas être oublié.
Est-ce que vous êtes heureux, par contre?
Oh, je suis extrêmement heureux. Je trouve que la vie m'a béni. J'ai eu une fille extrêmement intéressante. Et puis, j'ai pleuré une couple de fois. Je me suis fait maganer une couple de fois. Mais maintenant, depuis quelque temps, les gens me prennent comme un classique et les journalistes sont gentils avec moi.
Oui, parce que les journalistes ont parfois été méchants avec lui. À l'époque de la comédie musicale Gala, là, oui. Il a jamais oublié les cicatrices qui sont venues avec ça. Là.
Non, pas du tout, mais tu sais, je le sentais bien, je le sentais heureux. C'était l'album pour les femmes de ma vie.
C'était en quelle année, cet
album? C'était en 2018. Il venait d'enregistrer un album avec des... c'était ses grandes chansons, mais avec le contrepoids féminin, comme par exemple... t'es ma maîtresse.
Ginette Renaud?
Oui, au lieu d'être Ginette Renaud, c'était Diane Tell.
Ah.
Donc, il y avait invité comme ça, c'était sur invitation. Céline avait chanté sur cet album-là. Et ça avait été mon seul et dernier entretien avec Jean-Pierre Ferland.
Et si tu permets, je sais que tu as un dernier extrait musical. Il y a 5 ans, j'avais fait en direct de l'univers. Puis, tu sais, les gens connaissent le concept. Tu remplis un questionnaire sur ton historique de vie musicale, puis t'envoies ça dans l'univers, puis l'équipe de France Baudouin se charge de te monter un spectacle. Et à ma grande surprise, parce que j'avais dit à quel point j'aimais l'album Jaune, ben à un moment donné, dans le feu d'artifice d'interprètes et d'amis qui étaient là, ben il y avait Jean-Pierre Ferland avec chanson que tu vas nous présenter.
Quel cadeau,
Non, non, il y a un des beaux cadeaux de ma vie, je te dirais.
Quand même. Juste vous dire que François Legault a offert des funérailles nationales à la famille. Évidemment, si la famille accepte, il y aura funérailles nationales. Et ça, c'est une autre chanson, effectivement, qu'on retrouve dans ce palmarès d'Apple Music. Donc, une des chansons préférées des Québécois, j'en juge. Voici Le Petit Roi.
Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets aux élèves. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit, et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant.
Les beaux dégâts, ce qui t'a fait la langue.
4, Jean-Pierre Ferland, une belle vie, un beau legs musical, des millions de souvenirs aux 80.
Merci pour la musique.
Patrick Lagacé, en accéléré.
En novembre dernier, les journalistes Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry de la chaîne Nouveau ont lancé une enquête, ont présenté une enquête sur des donneurs de sperme artisanaux. Il y a des femmes qui veulent enfanter et plutôt que de passer par les cliniques de fertilité, passent par les moyens du bord, si je peux dire ça comme ça. Et l'enquête des journalistes Bergeron et Landry montrait que 3 donneurs de sperme particulièrement hyperactifs avaient donné naissance à plusieurs dizaines et dizaines d'enfants. Après la diffusion de la série en 3 épisodes, les journalistes ont reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui montrent que 3 pères, entre guillemets, ont donné leur semence pour enfanter beaucoup, beaucoup plus d'enfants qu'on ne le croyait. Marie-Christine Bergeron, journaliste d'enquête, chef d'antenne du Fil 17h à Nouveau, est en studio. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Donc, finalement, on est rendu à 3 donneurs de sperme artisanaux qui auraient enfanté combien de bébés?
À ce jour, plus de 600 enfants. C'est ce qu'on a réussi à confirmer. Quand on a fini la première diffusion à l'automne dernier de Père sans enfant, on en était à 225 enfants pour 2 donneurs issus de la même famille. On avait X et Y. On ne les nomme pas, on ne dévoile pas leur identité. Donc, X et Y avaient fait à ce moment-là 225 enfants. Et quand le documentaire a sorti, même juste quand la bande-annonce Patrick a sorti, j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages. Mon cellulaire ne dérougissait pas de mamans qui m'écrivaient pour me dire « Écoute, je pense que c'est mon donneur. » Je passais mes journées à répondre à ces femmes-là parce que je me disais « À un moment donné, ça va arrêter. »
Là, tu as réalisé que le décompte était beaucoup plus grand.
Que le décompte était plus grand et aussi, au fil des discussions que j'avais avec les mères, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un troisième donneur. Parce que dans la première série, il n'y a pas de troisième donneur, ils ne sont que 2. Et là, à un moment donné, je me rappelle avoir appelé Max. J'ai dit, Max, je pense que...
Maxime Landry, ton collègue journaliste.
J'appelle Maxime Landry pour lui dire, écoute, Max, je pense qu'il y a un Z dans l'histoire. Donc, un troisième homme de la même famille qui donne non seulement de façon artisanale, mais qui a fait des dons aussi dans une clinique de fertilité.
X, Y et Z sont de la même famille?
De la même famille.
C'est assez creep pour utiliser un mot pas québécois?
C'est particulier. Très particulier, effectivement.
On peut rire de ça, c'est-à-dire, bon, on pense au scénario du film Starbucks, là. On peut penser que c'est banal. En quoi est-ce que c'est pas banal?
Par quoi c'est pas banal? Tu te dis à quel point ces hommes-là veulent se reproduire?
Mais
veulent...
Au-delà de ça, on va aborder le côté narcissique, là, mais il y a un côté inquiétant pour le pool génétique.
Bien, c'est clair, surtout que dans la série, on va apprendre, et ça, on savait pas ça non plus lors de notre première enquête, c'est que ça a dégénéré, on pensait pas que ça allait se rendre là, Maxime et moi, je pensais pas que j'allais être ici aujourd'hui pour te parler d'un épisode 4. Et là, on s'est rendu compte que ces hommes-là étaient porteurs d'une maladie génétique.
Les trois.
Les deux. Au moins deux.
Au moins deux.
Ont une maladie, sont porteurs d'une maladie génétique.
Qui peuvent transmettre à leur descendance.
Un sur deux.
Puis c'est quoi?
La tyrosinémie, une maladie rare mais grave, qui a principalement au lac Saint-Jean. Et on a appris que, justement, il y avait des enfants qui étaient porteurs et des enfants qui en sont malades.
Puis c'est quoi les symptômes?
Les symptômes, c'est... en fait, il faut que ça soit traité à la naissance, mais si t'es pas traité, tu peux en mourir. C'est une maladie vraiment très grave. On l'explique dans le documentaire. On fait affaire avec une spécialiste, justement, de génétique au lac Saint-Jean pour nous expliquer vraiment qu'est-ce que... J'avais jamais entendu parler de la tyrosinémie. Mais on s'est informé pour savoir, justement, est-ce que c'est grave? Et oui, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle si elle n'est pas traitée. Donc, tu imagines les conséquences de...
Bien, ça, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, puis ça, il y a quelques mois, je pense, quand tu es venu nous voir pour nous parler de ton reportage, justement, ta série de reportages au mois de novembre, dans les recherches que j'avais faites, il y a un cas, je pense, aux Pays-Bas,
en
Europe, quelqu'un qui a donné sa semence comme ça aux 80. Puis statistiquement, ce que tu peux faire, c'est que dans deux, trois décennies, t'as un gars puis une fille qui peuvent enfanter,
mais
ils sont frères et sœurs.
Complètement, mais là, c'est ça la problématique.
Ou demi-frères, demi-sœurs.
C'est que là, on a trois hommes issus de la même famille, ce qui veut dire que si moi, Patrick, j'ai réussi à en compter plus de 615...
Ça veut dire qu'il y en a plus.
C'est clair qu'il y en a plus que 615. Ces gens-là, donc, sont tous liés génétiquement. Donc, ils sont soit demi-frères, demi-oncle, demi-cousin. Donc, c'est tous ces gens-là qui ont le même bagage génétique qui vont se retrouver à un moment donné, peut-être, à devoir faire passer des tests.
Mais il y a un danger de consanguinité.
Complètement.
Où est-ce qu'ils ont œuvré, ces gens-là?
Partout.
Partout au Québec?
Ils font du... Ils livrent à la voiture au volant aussi.
OK, mais écoute, sans être trop graphique, Marie-Christine Bergeron, on dit ça là, de façon un petit peu anesthésiée, le don de sperme artisanal. Comment ça marche?
Bien, tout simplement, il y a un contact sur Internet entre souvent un couple de femmes lesbiennes qui cherchent un donneur. Ils vont sur Internet parce que c'est trop long en clinique de fertilité.
C'est cher.
Et c'est plus cher, effectivement, puis il y a des tests à passer. Puis c'est si simple. Quand un homme t'offre sa semence si facilement, donc il peut se rendre chez toi, il peut venir à la maison.
Mais attends, il arrive quoi avec une éprouvette, une seringue? Comment ça marche?
Avec tout son kit, avec la seringue, l'éprouvette, il va à la salle de bain.
OK, il fait ça là.
Oui, live. Oui. Oui, mais ce qui est particulier, c'est que je me rappelle souvent des commentaires que les gens nous ont dit après ce documentaire-là en disant « Oui, mais les femmes n'ont pas fait attention, sont allées sur Internet. » Moi, ce qui m'a secoué, c'est quand j'ai appris qu'il y a un des hommes qui avait fait des dons en clinique de fertilité. Donc, j'ai dû apprendre à des mères qui avaient fait affaire et qui avaient payé pour aller dans une clinique de fertilité que son enfant faisait partie des 600.
Comment t'as fait pour savoir que les femmes qui sont allées en clinique de fertilité avaient reçu le sperme d'un donneur, disons, beaucoup trop prolifique?
Il y avait des rumeurs qui circulaient sur les groupes de femmes, des informations. J'ai des sources à qui j'ai pu donner le nom de ce donneur-là qui m'a confirmé qu'il faisait partie de la banque. On a ensuite fait des tests de paternité, pas des tests de paternité,
des tests
mais
génétiques,
des tests génétiques
d'ADN.
Pour lier un enfant issu de X, de Y et de Z. Et on avait donc la confirmation.
Ces couples-là, ces mères qui ont fait appel à ces donneurs X, Y, Z, combien ça coûte?
Ça coûte rien. C'est gratuit.
Ça coûte rien?
Non. Ils font ça gratuitement.
OK. Les gars font même pas ça pour l'argent.
Non. C'est par altruisme. Oui. C'est ça, okay. Qui est, oui, ça fait partie aussi du tu sais, quand tu parlais de creepy, là.
Non, mais il y a un élément salement narcissique. Puis dans la quatrième partie de la série documentaire, Père sans enfant, sans étant dans les deux sens, sans et sans, S-A-N-S, il y a le psychiatre Gilles Chamberlain qui témoigne. On va l'écouter, Marie-Christine.
Déjà, l'idée d'avoir le plus de descendants possible, il y a quelque chose d'un petit peu narcissique dans ça. Mais c'est quelque chose qui se retrouve dans les individus, dans toutes les espèces animales. Fait que si c'est simplement ça le but, on pourrait dire on est presque dans quelque chose de normal. Mais si on rajoute le fait que de ces descendants-là, il devient convaincu qu'il est pur la race, là, on tombe dans d'autres choses.
On tombe dans d'autres choses.
Oui, mais c'est clair que à ce jour, je suis même pas capable de t'expliquer aujourd'hui quelles sont leurs motivations. On a essayé de leur parler. Évidemment, vous allez voir ça dans la série. Il y a certaines informations qui vont vous laisser peut-être comprendre. Ok, ben lui, c'est pour telle raison, l'autre, c'est pour telle raison. Mais encore là, ça reste quand même flou. Là.
Marie-Christine, toi et Maxime Landry, vous êtes dans cette série documentaire. Et là, bon, rebondissement, il y en a beaucoup plus. On le disait là, trois donneurs liés par les liens du sang qui ont enfanté 600 enfants au bas mot, c'est beaucoup. Pourquoi vous les identifiez pas?
Parce que les avocats ont décidé qu'il fallait pas tout simplement les identifier parce que il y a rien de criminel au Québec, tu le sais, Patrick, il y a pas de loi qui encadre le don de sperme. Tu faisais référence tout à l'heure à la Hollande, aux Pays-Bas. Il y a un maximum établi par le pays de 25 dons par homme. Ici, au Canada, il n'y en a pas.
Alors, les avocats de qui?
Les avocats de... On a fait la série avec Pixcom. Les avocats de Pixcom ont décidé que ça n'allait pas être identifiable.
Puis-je prendre sur moi un commentaire éditorial?
Vas-y, je t'invite.
Il y a plein de femmes qui sont à risque d'acheter le sperme de ces hommes-là. Moi, je pense que ça ferait œuvre utile de savoir leur nom. Et message pour les avocats de Pixcom, si on commence à pu identifier les gens sur qui on fait des reportages pour des comportements douteux sous prétexte que ce n'est pas des actes criminels, la moitié des topos à nouveau, il n'y en a plus. La moitié des topos ici, il n'y en a plus. Dans la presse, dans le Journal de Montréal, sincèrement, tu as fait ta job de journaliste. Les avocats, je trouve qu'ils ont eu peur d'avoir peur. Écoute, c'est du service public de dire c'est qui ces gens-là. Tu ne le mets pas sur le dos. Mais les avocats de Pixcom qui nous écoutent, vous avez été peureux sur un moyen temps.
Le message est passé.
Quand est-ce qu'on peut voir ça?
Le 6 mai sur Crave. Actuellement, sur Canal Vie, vous pouvez voir les premiers épisodes. Et donc, le 6 mai sur Crave, ça va sortir Père sans enfant, la suite.
Beau boulot, Marie-Christine Bergeron. Salutations à Maxime Landry, merci. Ton partenaire dans cette enquête-là. C'était Marie-Christine Bergeron, journaliste d'enquête et chef d'antenne au fil 17h.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On a beaucoup parlé de la FAE ces derniers temps, pendant la grève, évidemment. La Fédération autonome de l'enseignement a déclenché une grève qui a été très remarquée, très contestée aussi, parce que c'était une stratégie différente de celle des syndicats du Front commun. La grève est passée, la convention est signée, ça a été signé de façon très, très serrée. Et là, la FAE est de retour dans l'actualité parce qu'elle va se joindre à ce mouvement de contestation devant les tribunaux de la loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21, donc va être entendue devant la Cour suprême. Et le syndicat a ainsi déposé une requête à cette cour d'appel de dernière instance. Mélanie Hubert est la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Madame Hubert, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc, qu'est-ce que ça implique pour la FAE là, de contester la loi 21 devant la Cour suprême?
En fait, ce que ça implique, c'est de poursuivre là où on avait laissé en cours d'appel, c'est-à-dire que dès le départ, on s'attendait un peu à se rendre là, pour être honnête, parce que les tribunaux du Québec, là, que ce soit la Cour supérieure ou la Cour d'appel, se basent sur un jugement de la Cour suprême pour rendre sa décision. C'est un arrêt qui date de 1988, là. Puis c'est ça l'état du droit depuis. Donc, cet état de droit-là dit l'utilisation de la clause dérogatoire, il s'agit de l'évoquer pour pouvoir l'utiliser. Nous, on pense que plus de 30 ans plus tard, il y a lieu de revoir la façon d'utiliser les clauses dérogatoires au Québec. Et il n'y a que la Cour suprême, dans le fond, qui peut revenir sur son propre jugement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une requête là, de permission d'en appeler, puis voir si la Cour suprême acceptera de se pencher sur cet arrêt-là qui nous dirige depuis 1988.
Je suis pas sûr de suivre. J'essaie de voir c'est quoi le lien entre un syndicat d'enseignement puis la contestation de la loi 21.
Bien, la loi 21 vise des membres qu'on représente. D'abord, il y avait dans cette loi des profs qui étaient visés par le port de signes religieux, à qui, au départ, on voulait interdire tout travail. On se rappellera, là, finalement, ça s'est soldé par une clause grand-père qui limite quand même les droits des membres qu'on représente. Là. Notamment, on leur interdit de changer d'employeur et dans un même employeur, ils n'ont aucune possibilité de promotion. Pour nous, ça vient brimer les droits de liberté de religion, mais aussi les droits à l'égalité qui sont prévus dans les chartes canadiennes et québécoises. Donc, on le conteste d'abord sous cet aspect-là. Ensuite, un aspect de dénombrement. On se rappellera, avant même l'adoption de la loi, le gouvernement avait demandé au centre de services scolaires de faire un dénombrement des gens qui portaient des signes religieux. Et pour nous, ça aussi, c'était une atteinte aux droits fondamentaux des gens. Et là, quand la loi est arrivée, ben c'est la clause dérogatoire qu'on remet en question, parce que par cette clause-là, on suspend les droits. Dans ce cas-ci, c'était des droits plus à l'égalité, comme je disais, de liberté de religion. Mais n'importe quel droit fondamental pourrait être visé par un gouvernement puis de venir suspendre les droits par simple évocation de la clause dérogatoire. Et c'est ça qui pose problème plus précisément dans le cas qui nous occupe.
Racontez-moi le processus de consultation des membres pour justifier votre décision d'aller de l'avant avec cette contestation de la loi 21.
C'est des discussions qui ont commencé dans les années 2010, 11, 12, 13. Ça s'est soldé en 2013 par un congrès. On avait procédé à un sondage auprès des membres. C'est un sujet, on se le cachera pas, qui divise, qui fait appel à nos valeurs profondes. Mais notre congrès, donc l'instance suprême de la Fédération, là, si on veut, en 2013, avait adopté une proposition qui visait à protéger les droits acquis des gens qui porteraient des signes religieux au travail. Puis les vêtements ou accessoires à connotation religieuse, pour nous, on n'allait pas les bannir, à moins que ça contrevienne aux règles de professionnalisme, par exemple en santé ou quoi que ce soit,
quand un uniforme. Vous avez fait un sondage?
Il y avait eu un sondage.
Combien de membres avaient été consultés?
Je pourrais pas vous donner les chiffres exactement, mais c'était une large. Ça avait été distribué chez les affiliés. On avait passé une année, en fait, à discuter
non, mais
de laïcité.
Madame Hubert, c'est important la question parce que quand je regarde le consensus dans la population francophone de la loi 21, si je l'applique à vos membres, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de vos membres, là, qui sont en faveur de la loi 21. Si je me fie là à des sondages, là, je veux dire, je pense 2021, l'appui à la loi, c'était 64%. Donc, on peut extrapoler peut-être là qu'il y a une majorité de vos membres qui sont en faveur de la loi. Fait que la question de savoir qui a été sondé, comment, il y a plus de 10 ans, elle est importante.
C'est à notre congrès, c'est l'instance suprême de la Fédération qui donne les orientations de la Fédération en 2013.
C'était OK, c'est pas vos membres, c'est les délégués qui ont été sondés.
Les délégués, ben non, il y avait eu un sondage auprès des membres et le congrès s'est positionné à la suite de ce sondage-là.
OK, puis vous savez pas il y a combien de vos membres qui ont été sondés?
À ce moment, ben, j'ai pas les chiffres. J'imagine que si je fouillais, mais vous comprendrez que j'étais pas présidente
en
2013.
Mais vous comprenez d'où je viens quand je pose cette question-là, Mme Hubert.
Oui.
Si vous faisiez... Je vais poser la question autrement. Pourquoi vous n'avez pas consulté vos membres maintenant? Pas par un sondage, par un vote.
Parce que pour nous, la question n'est pas uniquement le droit à la liberté de religion. Pour nous, le débat est beaucoup plus large que ça. C'est de protéger les droits fondamentaux. Aujourd'hui, on parle de religion. Doug Ford, en 2022, lui, voulait brimer le droit d'association des employés dans les écoles, justement, en interdisant le droit de grève, en les rentrant de force au travail puis en imposant les conventions collectives. On n'est pas à l'abri de ça. Sur différents sujets, aux États-Unis, c'est le droit à l'avortement qui est remis en question aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait arriver au Canada? C'est pas impossible. Okay. Pour nous, on est dans la défense des droits des gens.
Êtes-vous capable de me dire si vos membres sont d'accord avec le fait que vous contestiez la loi 21 à la Cour suprême?
Certains de nos membres ne le sont certainement pas. Je n'ai pas la tête dans le sable. C'est un débat qui peut être clivant. Vous parlez d'une majorité de francophones qui sont derrière la loi. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est un argument que M. Legault a évoqué à plusieurs reprises. J'ai la majorité de mon côté, puis c'est correct, je peux procéder. J'évoque la clause dérogatoire, mais pour nous, pour brimer les droits de personnes, quelles qu'elles soient, il faut avoir des motifs sérieux, avoir un objectif réel et urgent. Et pour nous, on souhaiterait que la Cour suprême vienne encadrer ce droit-là.
Ça vous coûte combien? Ça coûte combien à la FAE de contester la loi 21 devant la Cour suprême?
Bien, au moment où je vous parle, c'est difficile à dire parce que ça dépend toujours de la durée des travaux et de la façon que ça va se faire.
Vous devez avoir budgété quelque chose?
Ben, il n'est pas budgété de façon très précise. On a un contrat avec des honoraires d'avocat, évidemment d'un avocat qui est spécialisé en droit constitutionnel, mais honnêtement, l'essentiel du travail dans ce dossier-là, il a été fait en amont. On a consulté des experts, on a monté les plaidoiries en cours supérieure, en cours d'appel. Il y a eu 6 semaines d'audition en cours supérieure. Tout le travail et le gros de la facture est déjà absorbé parce que en Cour suprême, on plaide pas très longtemps, puis la cause est prise en délibéré ensuite par la Cour. Donc, le gros des dépenses dans ce dossier-là a été fait en amont au moment où on se parle.
Okay, je vais vous demander de répondre à un commentaire que j'ai reçu. On a fait grand cas, Mme Hubert, pendant la grève de la FAE, du fait qu'il n'y avait pas de fonds de grève. Il y a quelqu'un qui est un de vos membres dans ma messagerie qui me dit... La FAE n'avait pas d'argent pour nous aider à manger, mais ils ont de l'argent pour aller contester la loi 21. Vous répondez quoi à ça?
Bien, d'abord, le fonds de grève et les frais juridiques d'un syndicat, c'est des choses qu'il ne faut pas comparer non plus. Il y a eu des décisions à un moment donné dans la gestion des budgets qui font en sorte qu'effectivement, on n'a pas de fonds de grève. Puis pour vous donner une idée, là, on parle de tous les frais confondus à date, là, d'un peu moins de 20 $ par membre sur 8 ans. Pas 20 $ par année, 20 $ par membre sur 8 ans. Donc, c'est pas avec ça qu'on aurait fait un fonds de grève non plus faramineux, là, pour que les membres le comprennent.
Seriez-vous game de soumettre cette décision-là d'aller contester la loi 21? Seriez-vous game de soumettre ça à un référendum dans votre fédération?
Mais c'est pas dans les plans pour le moment. Okay.
Parce que vous perdriez...
En fait, l'idée, c'est qu'on souhaite élargir le débat, aller au-delà de la laïcité. Pour nous, c'est,
Mais la contestation, c'est sur la laïcité.
En fait, notre argumentaire porte sur l'encadrement de l'utilisation de la clause dérogatoire. C'est tout là-dessus que notre argumentaire est basé, puis on pense que la Constitution canadienne doit évoluer avec la société dans laquelle on vit.
Merci d'avoir été avec nous, Mme Hubert. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée aussi.
Mélanie Hubert, présidente de la FA.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.